parlé pendant 2 heures du macramé. Alors, le truc, c'est comment, qu'est-ce que vous faites, qui est-ce que vous êtes? Dites-le moi. L'homosexuel, c'est pas écrit sur son front. Il n'y a pas écrit la Danone, comme disent les flics. Dans les commissariats, c'est comme ça qu'ils disent. Ils sont police secours, mais ils veulent quand même pas trop secourir les gens. Ils disent, il n'y a pas écrit Danone. Comme si Danone nous sauvait de quelque chose. C'est comme Nestlé. Bon. Le point, il est que le paranoïaque, c'est ça. C'est pas un rejet de l'homosexualité comme pratique sexuelle. Après tout, on projette plein de choses de cette manière-là, mais il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental, c'est que ce soit un homme ou une femme, on ne peut pas distinguer, par quelque trait distinctif que ce soit, s'il est homosexuel ou hétérosexuel. Et donc, le sommet de la paranoïa, c'est quand même l'antisémitisme, parce que justement, la conséquence du texte qu'est la Bible, ben, c'est qu'il y a cette situation absolument formidable et cruelle, pour ceux qui en sont les victimes, mais qui est quand même quelque chose qui est inscrit au fronton de l'humanité, surtout aujourd'hui, qui veut globaliser, engloutir tout, qui veut plonger tout le monde dans le même globen, l'incrédulité dont parle Freud, vous savez, qui est à la base de tous les délires, l'unglobalité, l'incrédulité, c'est quelque chose qui est lié à cette paranoïa, au fait que l'antisémitisme est une paranoïa absolument extrême, et que vous voyez bien que le paranoïaque, aussi bien pour l'homosexuel que pour le juif, il a cherché à y ajouter comme ça un signe distinctif, un triangle rose ou une étoile jaune, voire un tatouage, et que donc c'est pas fini. Donc, si vous voulez, le racisme, c'est peut-être pour ça qu'il y a des racistes, parce que le racisme, en plus avec ses théories biologisantes dénoncées par Lévi-Strauss, très bien, hein, qui dit, comme Lacan l'explique dans L'Étourdi, qu'on fait des races d'hommes comme on fait des races de céréales, puisque c'est le fait du langage de sélectionner, de regrouper, de séparer, de faire justement avec n'importe quoi on fait du phonème, avec n'importe quel son on fait de la musique. Avec n'importe quel son, on fait du signifiant. Avec n'importe quel graphème, on fait des lettres et de l'écriture. Et les lettres, c'est pas forcément alphabétique. Hein. Bon. Donc, le racisme, c'est quand même plus facile pour le paranoïaque. Ça lui fait des vacances, parce que il y a des traits distinctifs. Dès qu'il peut, comme justement, s'attacher à certains traits, comme par exemple la qualité des cheveux, la couleur de la peau, ou la manière de marcher ou de nager, il est très content. Et donc, c'est plus facile pour lui d'être raciste. Ça lui fait, je vous dis, un peu de repos. Bon. Mais n'empêche que cette paranoïa, cette psychose paranoïaque, ça se soigne. Alors, le deuxième ratage, justement, celui de Schreber, c'est celui de la paranoïa. Ici, chez Joyce, il y a une erreur à l'infini, et Joyce le répare. Mais pourquoi donc Lacan attend la dernière leçon du séminaire 23 pour nous dire ça? Puisqu'il a proposé ce dessin qui est l'occasion de mettre en scène l'erreur de Joyce dès la leçon numéro 2. Bon. Eh bien, mon propos, c'est de vous dire, dans ces 4 dernières leçons que je vais faire ici en juin, c'est de dégager la raison de cette difficulté qui embarrasse Lacan et le fait traîner les pieds, souffrir, s'emmerder. C'est parce qu'il n'arrive pas, il ne sait pas comment s'y prendre avec son public. Vous voyez, il attend la dernière leçon du symptôme pour nous parler de l'ego de Joyce. Et dans la deuxième leçon, c'est la première leçon où il remet en scène ce qu'il avait mis dans la troisième, il nous montre le problème que Joyce va rater, et là il nous donne la solution de Freud au problème de Schreber. Vous voyez, sur la même figure, à côté de la structure qui, elle, est ratée ici et est ratée ici. Ici, vous avez bien un triskel, parce que ça, je vous fais le lien avec la présentation que fait Lacan grâce à cette espèce de croix celte, hein, c'est des droits de droite infinies du cercle, à propos de Joyce. Si Lacan nous dit que ça, hein, que ça comme ça, c'est aussi bien que ceci, hein, que ça c'est du nœud borroméen. Voilà, ça écrit bien le nœud borroméen. Vous voyez bien que ça nous introduit à cette théorie de la lecture qu'il va falloir faire un jour grâce à la psychanalyse. La psychanalyse, c'est devenir un étudiant, c'est-à-dire enseigner à son analyste afin d'apprendre, parce qu'on apprend mieux quand on enseigne, et en fin de compte, pour enseigner et apprendre, il faut étudier. Donc l'enseignant qui est le psychanalysant, il enseigne comment justement il s'y prend pour lire et pour écrire. Et ce qu'il fait là, c'est pour lui-même apprendre à lire et écrire. Il sait écrire ses rêves, mais il ne sait pas les lire. Donc il faut qu'il apprenne à lire. Et pour apprendre à lire, il faut qu'il explique à l'analyste comment il s'y prend pour les lire, justement parce qu'il se trompe. Il fait des erreurs et il a des symptômes qui font des suppléances. Ils font des erreurs soit à la manière de Joyce, soit à la manière de Schreber. Puisque, regardez, dans le cas Schreber, et donc là, c'est très différent dans la psychose que dans la névrose, dans le symptôme névrotique. Regardez dans Schreber, puisque Lacan nous dit que cette espèce de croix celte où il manque un croisement, c'est une écriture de nœud borroméen, on peut lire le nœud borroméen. La question de la lecture, elle est autant posée par la présentation du nœud borroméen comme ça, voilà. Ça, c'est un nœud borroméen. Ça, c'est un autre nœud borroméen. Le nœud borroméen, en voilà un. Celui-là, c'est celui-ci, ou celui-là, qui est celui-là. Ben, vous constaterez qu'il y a la moitié des croises des triskels, parce que ça s'appelle un triskel. Hein. Et ça s'appelle un triskel. Et dans le nœud borroméen, vous avez 8 triskels. Vous voyez ? Et il y en a un qui est tout autour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 triskels. Si vous connaissez ce dessin, vous pouvez voir que cette figure, hein, je vais vous la montrer avec un peu de couleur. Cette figure, ici, je vais mettre un rond bleu dedans. Cette figure, elle est là. Mais elle est aussi ici. Elle est également là. Et elle se trouve tout autour. Il y a 4, des 8 triskels, il y en a 4 qui sont comme ça. Et il y en a 4 qui sont comme ça. Vous voyez, je vais mettre un rond plein. Un rond bleu plein. Voilà, ici vous avez un triskel, ici vous avez un autre triskel, ici vous avez un autre triskel et là un dernier. Il y en a 4 qui sont comme celui-là. Comment vous pouvez le voir ça? Ben regardez, il faut déformer, il faut faire bouger les choses. Mais c'est pas ça qui est la lecture, qui est le plus important pour Lacan dans la lecture. Vous voyez, si je prends ce triskel-là qui est comme ça, il est comme ça, il est déformé comme ça. Voyez-vous, il fait un tour comme ça. Voilà. Voilà mon triskel en haut, ici. Hein, je l'ai recopié. J'ai interrompu les cercles en droite infinie. Ce n'est pas des cercles, c'est des portions de droite. Bon, ben, ce triskel, si je rabats ça par là et ça par là, je vais obtenir celui-là. Mais à la tête en bas. Vous voyez ? Si je fais ça, tout le monde voit dans le coin, si je fais ça comme ça, et ça comme ça, hein, c'est-à-dire que je ramène ceci par là et ceci par là, pour redresser ces deux courbes, cette courbe-là et celle-ci. Hein, si je les redresse pour les présenter comme ça, droite, comme des portions de droite, et comme ça, eh bien, mon triskel, il est là. Et si je lui fais faire un tour de 180 degrés, c'est-à-dire un pi sur 2, c'est un demi-tour dans le plan, hein, si ça, je le fais tourner comme ça, ben vous voyez que ça donne celui-là et pas celui-là. Ça, il va falloir le faire changer. Donc voilà la question de Lacan qui intéresse la lecture si on la pousse un tout petit peu plus loin que simplement le fait de découper, de faire du commentaire. Il y a un problème, le plus important, c'est que ça vous dise quelque chose qu'il faut inventer pour lire. Il faut inventer ce que vous avez lu, ce que vous allez lire. C'est pour ça, De Santi un jour, il disait les gens, ils ont peur de lire parce que lire, c'est faire parler le papier, c'est faire parler le livre, et ils ont peur que ça leur saute à la figure. Mais je crois qu'il y a pire. C'est que la lecture, c'est quelque chose d'extrêmement, qui peut paraître extrêmement peu engageant, parce que faut se jeter à l'eau. Là, dans la lecture, il y a véritablement... C'est ce qui fait la difficulté, c'est une très bonne indication analytique. Quelqu'un qui n'arrive pas à lire ou quelqu'un qui n'arrive pas à travailler, à écrire, le travailler, c'est toujours écrire. Vu qu'on ne travaille que dans le savoir, on ne travaille pas dans la vérité. Même s'il y a des avocats qui font des plaidoyers, vous savez. Peut-être que, je pense, que les speakers de radio, ils sont, à mon avis, bon, ils font une thérapie un peu intensive. Alors, ça, c'est comme un jogging, quoi. Mais enfin, ça ne fait pas vraiment une analyse. Je pense que vraiment ce qui est important pour le travail, c'est le savoir. Et le savoir, c'est l'écriture. La parole, c'est la vérité. Hein. Donc, quand Lacan parle du symptôme entre vérité et savoir, la vérité qui trouve de la jouissance à s'opposer au savoir, là, ce qui a fait les gorges chaudes depuis lui, depuis Lacan, à propos de la jouissance, c'est facile de se moquer de la jouissance des autres. Hein. Mais Freud, il ne s'en moque pas du tout. Hein. Il ne dit pas, dans l'avenir d'une illusion, il ne dit pas les infirmes de guerre, ils jouissent de leur infirmité. Là, ils se sont fait couper la jambe, on leur a enlevé un bras. Où ils sont paralysés, où ils ont reçu un truc dans la gueule, là, ils sont un peu cognés. Bon, ben, Freud, il le dit, il est faux qu'ils ne tirent pas quelques bénéfices de leur infirmité. C'est quand même une façon de le dire qui est plus honnête que de dire ils jouissent dans leurs symptômes. Bon. Il est faux qu'ils ne tirent pas quelques satisfactions. Vous voyez bien que c'est une double négation. C'est la même chose que dans le début de ce séminaire. Dans la première leçon, vous lirez cette phrase magnifique de Lacan qui vous dit « Surtout, ne vous laissez pas aller à dire que le sexe n'est pas naturel. » Alors, tout de suite, on plonge, on dit « Bon, ben voilà, est-ce qu'il n'a pas dit que le sexe était naturel ?» Ben justement, pas. « Ne vous laissez pas aller à dire que le sexe n'est pas naturel. » Mais manque de peau pour M. Cyrulnik et ses étolos animaux, là, qui fait de l'éthologie, qui veut ramener le désir à la résilience, à l'éthologie, il n'y a rien de plus crétin, enfin, c'est un scandale, que c'est un succès pareil dans le monde. Il y a deux scandales littéraires récents, c'est le monde sans limite de Mellemans et la résilience de Cyrulnik. Ça vous donne l'état à peu près de dégradation du discours analytique, vous voyez, puisque dans la cité, ça ne résonne plus du tout. Tout le monde s'est dit, je vis à Buenos Aires, là, et la semaine dernière, je téléphone au conseiller culturel français pour avoir un entretien avec lui, là, pour un projet que j'ai entre la France et l'Argentine. Et la dame qui est sa secrétaire, elle commence à me dire, ah, psychanalyse, ah, figurez-vous, l'Alliance française, quand est venu M. Cyrulnik, c'était plein. C'était régénaux. Régénaux, ça veut dire farci. C'était plein. C'était bourré de monde. Et moi, j'ai pas pu y aller, malheureusement, parce que j'étais occupé ce soir-là. Vous voyez, il y a comme quoi les mauvaises actions ont du succès jusqu'à l'autre bout du monde, même jusque chez les pingouins, où je vais moi. Donc, moi, je ne dénigre pas les pingouins, je fréquente les pingouins, mais volontiers. C'est pas pire que les Européens, vous savez. Le problème, il est quand même que c'est terrible, cette époque, quand même, où on voit que l'éthologie, voyez-vous, c'est sûr que si on peut ramener Freud à Pavlov, à Skinner. Bon, ce n'est pas une raison de ne pas lire Skinner et Pavlov, d'ailleurs. Lacan s'en prive pas. Il parle aussi bien de Pavlov à propos de l'holophrase et de la débilité, hein, que de, et des maladies, et des maladies, enfin des soi-disant symptômes qui sont soi-disant psychosomatiques. Hein. Lacan explique qu'ils n'ont rien de mystérieux, ils ne sont pas psychosomatiques, ils sont simplement parfaitement somatiques, et la raison, c'est que le soma en question, justement, il est happé par le langage, il est entièrement détourné, c'est même la définition du mot trip, du mot dérive, il dérive avec le langage, c'est la pulsion freudienne. N'importe quoi du corps peut servir à écrire n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on a des troubles organiques. Bon, mais bien sûr que c'est psychosomatique, c'est pas psychosomatique, puisque ça veut rien dire. Nous survivons grâce à cette maladie qui s'appelle la dérive, la pulsion. Et il y a un ressort là-dedans, on ne sait pas très bien ce que c'est, puisque ça ne donne que quelque chose d'extrêmement divisé, qui est un grand écart, un éventail, voyez-vous, entre perversion et névrose, ça donne sexe. Alors, ça tombe sur le corps comme la lumière sur un prisme, et ça donne un arc-en-ciel qui s'appelle sexe, qui s'appelle perversion d'un côté, attraction d'un côté, phobie de l'autre côté, ça veut dire répulsion. Bon. Donc voilà pour les négations. Faites attention, on ne peut pas dire que le sujet, c'est pas parce que Lacan définit le symptôme en 67. Dans la psychanalyse et ses rapports avec la réalité, il le définit comme c'est de la vérité qui trouve de la jouissance à s'opposer au savoir. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'elle trouve de la jouissance? Ça veut dire deux choses en français, si vous lisez bien la phrase, elle équivoque. Hein. C'est-à-dire qu'est-ce que la vérité, elle jouit pour résister au savoir? Ou est-ce que la vérité, elle va puiser dans la jouissance, elle trouve de la jouissance, elle trouve quelque chose du côté de la jouissance comme moyen pour résister au savoir. Bon. De toute façon, Freud, il dit, avec une double négation, d'une manière beaucoup plus, avec plus de nuances et de précautions, c'est quand même ça devrait être le béaba d'une clinique analytique. Au lieu de porter des jugements à l'emporte-pièce, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas assertif. On peut être assertif, mais pas être ni grossier, ni vulgaire. Toujours est-il que donc Freud, il dit, il est faux, n'est-ce pas, que l'infirme ne tire pas quelques bénéfices de son infirmité. Et ce n'est pas une affirmation. Et c'est justement pour ça qu'il faut accepter que derrière tous ces travaux de topologie, pour étudier ces nœuds, parce que ce n'est pas le cas des surfaces ni des graphes, il faut une logique différente. Et c'est pour ça que ce qui accompagne ces travaux, c'est pendant Lacan, ça va l'accompagner pendant plus de 15 ans, à partir de la signification du phallus jusqu'à l'étourdi, il va accompagner ces travaux de topologie des surfaces de logique. Et ces deux choses-là, ces deux courants, des années 60, toutes les années 60, hein, qui commencent avant les années 60, en 57-58, quand ils rompent avec Lagarde, et ça va aboutir dans l'étourdi, qui est une sorte de testament doctrinal de Lacan. Après, il n'y aura plus beaucoup d'écrits. Bon, il y a télévision, et puis il y a Joyce le symptôme. Il n'y a pas beaucoup d'écrits après. Il y a les séminaires, par contre, qui restent. Mais ça, c'est un bric-à-brac. Alors, Vous avez un problème de logique qui est justement, j'ai donné les rudiments de cette logique freudienne dans l'appendice numéro 6, c'est une annexe numéro 6 que j'ai faite là sur internet dans la page où j'ai expliqué comment on pouvait lire les formules de la sexuation. Hein? Ça s'appelle lecture des formules de la sexuation. Parce que vous voyez que Milner, il en fait un problème de limite et d'illimité, la société et l'État. L'État est limité, la société est illimitée. Et il lit pas, il dit qu'il n'écrit pas les formules de la sexuation, mais c'est un peu de pudeur au moins, parce que de toute façon, il ne les lit pas non plus. Il les lit très bien du côté homme, il l'a dit, il l'a écrit dans Les Noms Indistincts, Jean-Claude Milner. Il a fait un très bon commentaire du côté homme, dès Les Noms Indistincts. Mais par contre, du côté femme, moi je l'ai même entendu le dire dans une soutenance de thèse un jour, qu'il fallait construire les deux canteurs originaux de Lacan. Et donc, comme j'ai construit ces canteurs originaux en suivant les indications du séminaire, c'est les indications qui sont d'un autre à l'autre. Lacan lisait Krivine et Kreisel. Et Lacan, vous savez qu'à l'époque, en théorie des modèles, en logique, en théorie des fondements, Jean-Louis Krivine a écrit sa théorie axiomatisée des ensembles, un peu après un livre qu'il a fait avec Kreisel, l'année où Lacan fait d'un autre à l'autre, 67. Et là, Kreisel et Krivine formulent l'état de la logique à l'endroit où Le Goffet, dans son très bon livre qui s'appelle L'incomplétude du symbolique, s'arrête. Il prétend, là, c'est quand même dommage et curieux, parce qu'il était bien parti, il s'arrête, il dit, voilà, on arrive là on rentre dans la théorie des fondements, il y a des chaires d'université maintenant, quittons la logique, arrêtons. Lui, il s'arrête avec... le débat Hilbert, Breuer, Gödel, et comme s'il ne s'était rien passé après, alors que Lacan, lui, lisait dès 67. Moi, j'ai des lettres de Kreisel écrites à Lacan, dans les documents que Lacan m'a donnés, et il écrivait à Kreisel, et Kreisel répondait à Lacan. Et donc, il connaissait très bien Krivine et les travaux de Krivine. Et il en parle dans le séminaire d'un autre à l'autre. C'est accessible à tout le monde. Si vous lisez le petit livre qui maintenant est devenu un plus grand livre, qui s'appelle Théorie axiomatique des ensembles, vous avez les éléments dans ce livre que je cite dans mon papier pour lire les formules de la sexuation du côté femme. Mais il faut modifier la logique. Donc j'ai donné le début des indications, les moyens de pouvoir développer cette logique où on peut dire qu'il est faux que l'infirme il ne jouit pas dans ses symptômes. Il est faux qu'il jouit pas, il en tire quelques satisfactions, mais il est faux qu'il jouit, parce que il faut pas quand même se moquer du monde, si vous voulez. C'est la même chose que la fin de l'analyse, vous voyez. J'avais expliqué l'intérêt de cette logique à propos de justement de cette question de Emlich, c'est-à-dire l'analyse finie, l'analyse infinie, et puis le côté familier, le côté très mal traduit en français, puisque Unendlich, ça veut dire inquiétante familiarité. Et même Freud, il reproduit toute une page du dictionnaire allemand pour bien montrer que ce mot, il a cette qualité de sens opposé, là, de Gegensinn, tant critiqué par Benveniste. Et comme le dit Lacan, ça pullule en arabe, donc ça existe. Et comme Milner, remarquez bien que Milner a fait une conférence sur cette question qu'il a appelée la coupure invisible. Ça se trouve dans un livre qui s'appelle Les linguistiques fantastiques chez Albin Michel. Eh bien, c'est une défense de la psychanalyse et de Freud contre l'avis de Benveniste, en montrant que finalement Freud dit la même chose que Benveniste. Il y a de la différence dans la langue, il y a toujours de la différence, mais ça n'empêche pas qu'il y a cette question de la Gegensinn, du sens opposé des mots primitifs. Et que malgré Abel, qui n'est pas un bon linguiste, effectivement, qui n'a pas de bonne catégorie, même s'il s'appelait Apollon à un moment, parce que Apollon se pose le même genre de questions, c'est pour ça que c'est intéressant de lire Les Fleurs de Tarbes, c'est quand même, on est en plein dans cette question, de savoir comment on peut faire du patinage artistique dans la langue, et comment les choses font pour se retourner d'elles-mêmes, pour s'involuer complètement dans la parole et dans le langage, mais pas avec la même inertie. C'est ce qui fait dire à Lacan dans Mon corps que la structure du langage, c'est le principe d'inertie pour lui. C'est une posture galiléenne, mais c'est quand même grâce au principe d'inertie chez Galilée que, avec les lois de Kepler, Newton a trouvé la gravitation universelle. Si les trajectoires suivent sont elliptiques, et que le principe d'inertie dit qu'un objet qui ne subit aucune influence, ça va en ligne droite, c'est un syllogisme que de se dire que, du fait que ce ne soit pas des lignes droites, il doit y avoir une influence qui détourne les planètes de la ligne droite. Et du coup, Newton, il en déduit, il y a une influence qui s'appelle gravitation. Et il trouve la formule, ce qui est déjà plus compliqué. Hein, il y a une différence entre faire un syllogisme pour se dire là, il y a un poisson à attraper, et puis ensuite, il faut attraper le poisson. On pourrait dire avec Freud et avec Lacan que nous sommes dans la même situation. Kepler, le Kepler de la psychanalyse, Lacan, non, Freud, il a commencé par dire les rêves, ça se lit. Hein? Et Lacan, il nous dit, il y a un principe d'inertie, donc il l'écrit explicitement dans Radiophonie question 4. Hein. Vous pouvez relire toute Radiophonie question 4, vous avez ces éléments-là. Eh bien, on peut déduire du fait que les rêves s'écrivent et donc ils sont à lire, ils sont pas... C'est pas raconter le journal, la chronique de la famille, vous savez comme ça se passe dans beaucoup d'analyses qui virent à la psychothérapie. On passe son temps à écouter des histoires, oh là là, mon mari m'a quitté, ma fille, elle est insupportable, le monsieur... Enfin bon, je vous en passe, parce que on en connaît tous plein. Et puis il y a des gens qui appellent ça clinique. Alors, il y a quoi devenir vraiment malheureux. Bon, alors, il y a un colloque, tenez, je suis étonné que personne ne l'ait repris dans les années précédentes, là, dans les années que nous venons de passer, à propos de cette histoire de la réglementation des psychothérapies, parce qu'il y a un colloque en 68, dans l'école freudienne de Lacan, qui a lieu à Strasbourg, et qui était intitulé « Psychanalyse et psychothérapie », et dans lequel Lacan intervient beaucoup. Moi, j'ai photocopié, j'ai saisi ça là dans le site de Alouche et Le Goffet, là, dans leur truc. C'est vachement bien. J'ai photocopié toutes les interventions de Lacan. Quelques interventions annexes des gens avec qui il discute. C'est là qu'il discute avec Houry. C'est assez amusant ce qu'il discute avec Houry. Ce qu'il dit à Houry, finalement, ce que vous aimez, c'est le bordel. Enfin, il lui dit la chienlit, je crois. C'était à la mode en 68. C'est De Gaulle qui avait déjà dit ça. Alors. Donc Lacan, il intervient dans ce colloque pour dire, après le rapport de quelqu'un qui le félicite, qui s'appelle Boer, Lacan, il dit, Boer a tout à fait raison, il a posé le problème. Les analyses se transforment en psychothérapie. De la psychanalyse, on glisse dans la psychothérapie. Bon, ça c'est le rapport de Boer. Alors Lacan, il dit, ben, le problème n'est pas là, le problème il est-ce que c'est nécessaire ou pas ? Voilà, vous voyez, Lacan qui retend la toile, c'est assez bien parce qu'au bout d'une journée de colloque, Lacan, il hésite à intervenir, puis à un moment, il intervient pour justement tendre le discours. Et ça devient très intéressant parce que tout le monde veut discuter, là. Ça commence à bagarrer un peu plus autour de lui. Et il y a donc, c'est là que De Certeau, vous savez, dans la télévision, quand Miller pose la question à Lacan à propos de la ségrégation, il lui signale qu'il y a un colloque, ou à la fin d'un colloque, il a annoncé la montée de la ségrégation, vous voyez, hein, ce qu'on peut voir, là, malgré Cervantes et Don Quichotte, vous voyez, on leur tape quand même dessus avec des gros bâtons, là. Il y a un an, on leur donnait des tentes, on les laissait un peu s'installer, les pauvres ségrégués, mais maintenant, on en a moins et on leur casse la gueule. Moi, je sais ça parce qu'il y a des gamins, les miens, mes enfants, qui m'ont dit qu'ils se sont fait arrêter parce qu'ils étaient avec des vieux, des retraités, ils étaient sur le trottoir d'en face en train de gueuler parce qu'on tapait sur les mecs qui étaient là. Ça passait pas à la télé, ça passe plus à la télé, ça passait à la télé quand on acceptait de les traiter bien. Maintenant, on les traite plus bien, alors on leur casse la gueule. Et du coup, les gamins, ils ont gueulé, ils se sont fait embarquer. Ils se sont tous fait attacher les mains avec des trucs en plastique comme dans les hôpitaux, vous savez. C'est charmant. Voilà, les mains dans le dos. Et voilà que, vous voyez, Lacan, il annonçait que de toute façon, on n'avait encore rien vu en matière de ségrégation. Ben, c'est dans ce colloque de 68. C'est après un exposé de De Certeau. Michel De Certeau, il est en train de... Bon, lui, il fait un peu dans le Englobène, quoi. Il veut poser des questions impertinentes. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Lacan lui dit, mais écoutez, mon vieux, vous avez bien raison dans ce que vous dites, mais alors allez-y carrément. Vous contentez pas comme ça d'évoquer le problème. Si la psychanalyse pose un problème, effectivement, dites-le, et puis parlons-en. Et c'est là qu'il annonce, il dit, vous allez voir, la ségrégation, on n'a encore rien vu. Bon. Donc voilà ce colloque de 68. Moi, j'ai relevé toutes les... toutes les interventions de Lacan, je les ai photocopiées pour en faire pour les lire et les relire, et surtout la conclusion du colloque. Et bien dans la conclusion du colloque, à propos de cette structure borroméenne, là, à laquelle il attache tant d'importance, puisqu'il suppose que Joyce voulait la réaliser, qu'il a raté, que Schreber, à partir d'un reste de cette structure borroméenne, il voulait la réaliser en ajoutant ce qui se passe à l'infini, c'est-à-dire pas seulement un croisement, mais trois croisements. Vous voyez, la question de la lecture, elle est plantée par Lacan dans ce séminaire, hein, mais elle n'est pas plantée, elle n'est pas traitée d'une manière directe. Il nous donne le matériau en nous disant, voilà, quand vous lisez un truc comme ça, vous voyez, il manque un croisement, ben vous devez savoir qu'est-ce que c'est pour faire la chaîne, pour faire le nœud. Si vous ratez, vous allez avoir des symptômes, là, vous allez avoir un ego qui va essayer de suppléer au fait que le papa de Joyce, il était un peu alcoolo, et puis il était un peu mou, quoi. Il a confié son fils aux jésuites, parce qu'il n'était pas très... C'est des pires que le papa du Tiant. Le Tiant, son papa lui a pas donné la patente pour qu'il emmène les dames au lit quand il serait adulte. Hein? C'est ce que dit Lacan à la fin du séminaire du séminaire 4. Hein? Il dit Lacan qu'on a vu en Europe apparaître ce type de sujet dans les années de la drôle de guerre. Lui, il était dans la médecin parmi les médecins militaires, il faisait passer le conseil de révision. Il dit qu'on a vu apparaître ce genre de sujet mal, inapte au commandement. Et que Hans, il serait comme ça. Parce que Freud et son père ont oublié de lui donner la patente. C'est quoi la patente? Vous voyez, la patente, c'est le début du patinage artistique. C'est-à-dire qu'il faut dire à Hans, le petit, quand il commence à s'énerver un peu, au lieu de lui donner du fénergant, il faut lui dire, bon, bah, tu vas plus aller tout le temps dans la salle de bain avec ta maman pour discuter de ces petites culottes, il va falloir quand même que tu prennes un peu des distances. Alors ça, c'est ce que Melmont croit qu'il est nécessaire d'appeler mettre des limites. Il ne s'agit pas de mettre des limites, il faut parler avec le gamin, il faut lui dire, bon, vous voyez, c'est comme dans les addictions, vous pouvez dire à n'importe quel addict, que ce soit une drogue dure, ou du tabac, ou du café, ou n'importe quoi, l'alcool, vous pouvez lui dire... De toute façon, que ça, il faudra aussi lui dire, comme dit Hamlet. Hein, Hamlet, qu'est-ce qu'il dit à sa mère? Hein? Il dit, bon, Claudio, t'aimes bien que Claudio, il vienne t'embrasser dans le cou le soir et qu'il vienne t'emmener sur le lit, là, qu'il t'emmène sur le lit. Ben, parce que Claudio, il a la patente. Bon, sacrément, lui, il a même tué son frère. Bon, c'est pas un exemple à suivre, c'est pas ça la patente. Mais n'empêche qu'il emmène sa femme sur le lit. Bon. Les hommes tels que le petit Hans, il faut les déculoter. C'est les dames qui doivent les emmener au lit. C'est le genre de mâle américain qu'on voit apparaître en Europe d'après Lacan. Il était témoin vivant dans les années, fin des années 30. Bon. Donc la patente, c'est quoi? C'est quand on a dit au petit gars, au moment de la crise oedipienne, de la crise post-oedipienne, au moment où ça urge dans la période de latence, là, la sexualité bourgeonne. Ça fait une phobie, une belle phobie infantile, il faut lui dire stop. Et bien, quelques temps après, quand il a tout oublié et qu'il a surmonté cette période de phobie, donner la patente au gamin, c'est ce que savaient faire autrefois les membres de la famille, en particulier le père. Il faut lui dire, bon, ben, comme ça, vous savez, un soir, la mère est partie se coucher, le gamin, il dit bonsoir à son père, il lui dit, t'as dit bonsoir à ta mère? Ah non, elle est partie se coucher. Ben, va lui dire bonsoir. Mais le gamin, il dit, mais il faut pas que j'aille trop dans son lit. Alors le père, il dit, mais vas-y, va lui dire bonsoir, tu peux l'embrasser et lui dire bonsoir, même si elle est dans son lit. Alors le gamin, ben, ça lui fait du bien, si vous voulez. Ça va la guérir un petit peu, vous voyez. C'est ça la patente. Donc Hans n'a pas eu ça. Et c'est pas tout à fait le cas de Joyce, mais Joyce est de ce tabac-là. C'est que lui, il avait un père bon, qui était, lui, addict. Hein? Donc, je vous dis, quelque chose comme la patente, c'est pas une question de soigner. Hein? C'est un symptôme. Il s'agit simplement d'un geste politique et de parole.